Surtout que le titre que je vais vous expliquer demande déjà une introduction. Le titre de cette conférence est « Introduction à la connaissance du fait coranique ». Le mot important, c'est le fait coranique. Je n'ai pas dit introduction au Coran. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez que les discussions en France, depuis surtout la création de la fameuse commission de la laïcité, les discussions au sujet de l'islam, sont extrêmement passionnés et il y a malheureusement peu d'occasions favorables pour donner des informations au public sur ce qui est appelé globalement l'islam et sur surtout le rôle que joue le Coran aujourd'hui dans toutes les sociétés musulmanes. Et les sociétés musulmanes, vous le savez, ça s'étend de l'Indonésie jusqu'au Maroc. Et du nord au sud, ça va du Caucase, en Russie, jusqu'à l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de lieu de la terre où l'on ne trouve pas au moins un groupe de musulmans. Mais quand on parle d'Indonésie, par exemple, ça fait déjà plus de 200 millions d'habitants. Et l'Inde, c'est également 150 millions d'habitants qui constituent une minorité dans la société de l'Inde, qui est peuplée d'hindous et de bouddhistes. Et l'hindouisme, évidemment, c'est la majorité, c'est la religion première, qui a à elle seule plus de 800 millions d'habitants. Alors il faut déjà, vous voyez, sortir de l'Europe, sortir de la Méditerranée, sortir du Proche-Orient, c'est-à-dire du monde arabe, de la Turquie, de l'Iran, dont nous entendons très souvent parler, à cause de l'actualité politique, mais cet ensemble que je viens de nommer appartient au monde méditerranéen, le monde turco-arabo-irano-musulman. Et dans ce monde-là, même dans la Méditerranée, vous voyez que l'islam ne se réduit pas aux Arabes, au monde arabe, ce que l'on confond souvent. Les Arabes égale l'islam. La seule chose qui est vraie et qui reste vraie, c'est que ce qu'on nomme le Coran est en langue arabe. Il est transmis en langue arabe. Donc, il est juste de dire que l'arabe, du point de vue de la langue, a marqué profondément toutes les expressions de cette religion que l'on appelle l'islam. Alors, le Coran, comment le situer? Comment introduire un public européen, français, américain au Coran aujourd'hui? Je dis aujourd'hui parce que, justement, la question de la référence au Coran est devenue constante dans les sociétés européennes depuis qu'il y a ces flux d'immigrés venant des pays musulmans et en particulier du Maghreb, de l'Afrique occidentale qui a été l'Afrique française à l'époque coloniale. Mais il y a aussi des musulmans qui viennent de Turquie, qui viennent du Pakistan, qui viennent même de l'Asie, en France et ailleurs en Europe. Et puis il y a ces événements tragiques que nous vivons, surtout depuis le 11 septembre, les attentats du 11 septembre à New York, parce que le 11 septembre a fait que l'Amérique, les États-Unis, sont pour la première fois engagés eux-mêmes en tant que nation, en tant que puissance mondiale, première puissance mondiale. Ils sont engagés dans une lutte que nous appelons la lutte antiterroriste. Le terrorisme étant lié à cet islam qui se trouve extrêmement embrouillé de ce fait. Car comment distinguer avec ces choses et ces événements qui embrouillent tout, comment distinguer l'islam comme religion, comme expérience humaine du divin, exactement comme le judaïsme, le christianisme, et puis cette dérive politique considérable qui atteint le monde entier et où la violence politique a confisqué la vie religieuse et la référence à la religion. Ceci, il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre pourquoi maintenant aux États-Unis, comme dans toute l'Europe, on se préoccupe de savoir mais que dit ce Coran donc ? Auquel évidemment les musulmans réfèrent quotidiennement. Est-ce que le Coran contient des injonctions pour livrer la guerre sainte, comme on dit ? Est-ce que ce sont ces injonctions qui sont présentes dans l'esprit des musulmans pour aller faire la guerre comme ils le font ? Mais faire la guerre non pas de manière traditionnelle, à armes égales, mais faire la guerre sous la forme du terroriste, parce que militairement, technologiquement, économiquement, il y a une inégalité totale entre ce dont dispose l'Europe, et surtout les États-Unis, et ce dont dispose toutes ces sociétés musulmanes qui appartiennent toutes à ce que l'on a longtemps appelé le tiers monde. Le tiers monde, c'est l'expression géopolitique qu'on employait pour désigner tous les pays du monde autres que l'Europe, l'Amérique du Nord, mais pas l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud fait partie du tiers-monde. Ce sont toutes les sociétés, et vous voyez, je cite l'Afrique du Sud exprès comme faisant partie du tiers-monde, c'est-à-dire un manque de démocratie, un manque d'évolution et de production économique pour nourrir l'ensemble de la société, et donc un décalage de l'Amérique latine par rapport à l'Amérique du Nord et par rapport à l'Europe. Ce sont tous les pays, le tiers-monde, ce sont tous les pays qui sont décalés du point de vue de leur institution politique, manque de démocratie, du point de vue de leur capacité économique d'avoir un développement durable qui puisse donner du travail à tout le monde et qui puisse permettre à tout le monde d'avoir une éducation, d'avoir des logements, ce qui constitue les droits élémentaires des hommes aujourd'hui. Mais nous constatons que même en France, là, le problème se pose aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de même de mentionner, puisque nous venons de vivre des situations qui sont exactement dans ce que je suis en train de vous expliquer. C'est étendu au monde entier. L'expression tiers-monde, ça veut dire le troisième monde, s'expliquait jusqu'en 1989. Parce qu'il y avait le premier monde libéral, démocratique, l'Europe libérale et l'Amérique du Nord libérale, le monde communiste, deuxième ou à égalité, il se voulait à égalité idéologiquement, le monde communiste, après la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS était la deuxième grande puissance face à la première ou les deux premières ex aequo, ce qui justifie l'existence d'un tiers monde qui n'est ni l'Union soviétique ni le monde libre comme on l'appelait depuis 1945 jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1989. Ça aussi c'est un rappel extrêmement important pour situer la façon dont l'islam et le Coran fonctionnent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que de 1945 à 1989, il y a eu la guerre froide, qui aurait pu à tout moment devenir chaude, entre l'URSS et le monde libre. Et c'était l'époque où, en Europe et même en France, on se souciait d'une force militaire de dissuasion et donc d'avoir la bombe atomique, qui est toujours à l'ordre du jour maintenant, puisque nous voyons des pays du Proche-Orient qui veulent aussi avoir une bombe atomique, et le Pakistan en a une. Autrement dit, vous voyez, nous vivons dans un rapport de force fondé sur la toute-puissance des armes et la toute-puissance politique. Et après la disparition de l'URSS, un Américain qui s'appelle Francis Fukuyama, d'origine japonaise, mais c'est un Américain, a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». C'était en 1991, immédiatement après la chute du monde communiste. La fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il voulait dire par là que la seule force qui rivalisait et éventuellement pouvait menacer l'Europe et l'Amérique du Nord, c'était l'URSS. Et voici qu'elle disparaît soudain, en tant que puissance. Et donc, le capitalisme libéral, représenté par l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, désormais, a le champ libre pour gérer l'histoire de l'humanité. Gérer l'histoire de toutes les sociétés du monde. Et pour décider de l'orientation de notre histoire en tant qu'espèce humaine, puisque tous les hommes sur Terre sont concernés par les décisions prises, uniquement cette fois-ci, à Washington et éventuellement dans les pays européens, l'Angleterre, la France, mais les pays européens connaissent l'évolution que nous connaissons, les difficultés de l'Union européenne, si bien que la seule force, grande force d'intervention dans le monde, ce sont les États-Unis. Ce qui vous explique que les États-Unis s'autorisent à faire une conquête militaire d'un pays comme l'Europe, de l'Irak, un pays comme l'Irak. C'est-à-dire une expédition de type colonial, exactement comme l'expédition française en 1830 pour éliminer le dey d'Alger, mais en ce temps-là c'était bien plus facile, éliminer le dey d'Alger et prendre le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé, et voilà, ça se répète, et personne n'attendait ça. Personne n'attendait ça. On pensait justement qu'après les libérations et les guerres de libération des colonies européennes, eh bien, la reconquête de type colonial, c'est terminé. C'est terminé. Eh bien, vous voyez, ça n'est pas terminé. Alors, comment tout ceci est reçu et vécu quotidiennement par plus d'un milliard de personnes humaines qui se réclament de l'islam et du Coran. Voilà où je voulais en venir, par cette introduction. Et voilà la question qu'il faut se poser. Et voilà la question que les informations quotidiennes, trop préoccupées à faire les récits et les reportages sur les tragédies qui se déroulent dans le monde, eh bien, les médias n'ont pas ou ne consacrent pas un temps pour donner la parole à ceux qui peuvent parler en tant qu'historien et non pas en tant que politicien. C'est très différent. Ici, je vous parle, je suis historien. Je ne suis pas un politicien. Je n'appartiens à aucun parti politique. Il y a des professeurs qui appartiennent aux partis politiques, mais moi, délibérément, j'ai toujours refusé d'appartenir à quelque parti que ce soit. Car l'historien est un juge d'instruction qui ne doit pas se tromper. Et là, oui, on vit l'actualité, que voulez-vous? Et oui, le juge d'instruction ne doit absolument pas se tromper. Et c'est pour cela qu'avec mes étudiants, je compare toujours la fonction de l'historien à celle du juge d'instruction. Parce qu'il s'agit de donner la parole à tous les morts disparus et à qui la parole de leur vivant a été refusée. Et c'est ce que nous allons faire, justement pour essayer de faire ressurgir des problèmes qui ont été éliminés, défendus, rendus tabous par le contrôle des docteurs théologiens de l'islam vrai, comme il y a des contrôles théologiens du judaïsme vrai, du catholicisme vrai, catholica, ça veut dire droit, le chemin droit en grec, c'est l'Église et sa hiérarchie. Et donc vous voyez tout de suite, dès qu'on aborde la question de ce que les trois religions monothéistes appellent les textes sacrés, les écritures saintes, qui sont la référence absolue, l'instance de référence absolue pour tous les croyants, puisque la Bible, les évangiles et le Coran contiennent la parole de Dieu révélée à travers les prophètes, Moïse, Abraham, les grands prophètes ou rois de la Bible, et puis Jésus, et puis le dernier venu chronologiquement, c'est le prophète Mohammed. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'émergence à l'histoire du Coran et de la prédication du prophète arabe Mohammed, c'est entre 610 et 632. Donc, à peu près une vingtaine d'années. C'est pendant une vingtaine d'années, en Arabie, vous voyez l'Arabie, je pense, devant vous, dans la carte, elle fait partie de ce que nous appelons le Proche-Orient, et principalement en Arabie, dans les deux grandes villes que nous appelons La Mecque et Médine, ce Mohammed, qui appartient à une tribu, commence à parler un langage inhabituel pour les contemporains. mais un langage connu et familier aux juifs et aux chrétiens qui vivaient en Arabie. Parce que ce langage que parlait Mohammed empruntait beaucoup au langage des prophètes précédents, les prophètes de la Bible et Jésus de Nazareth, qui apporte une nouvelle version de ce que nous appelons le monothéisme. Alors, là, pour entrer davantage dans notre sujet, je vais utiliser quelques diagrammes juste pour visualiser un certain nombre de problèmes que toute parole au sujet du Coran, ou bien des évangiles, ou bien de la Bible, doit absolument commencer par mettre sur table, pour ne pas conditionner par des préjugés et par des ignorances véhiculées quotidiennement dans ce que les uns et les autres disent sur l'islam, sur le judaïsme, sur le christianisme, et pour rester justement dans les enseignements de l'histoire. L'histoire est la première à prendre la parole, avant le théologien, avant le juriste qui va construire la loi religieuse, la loi religieuse juive, la loi religieuse catholique, qui s'appelle le droit canon, qui est toujours le droit de l'Église jusqu'à nos jours, différent de notre droit civil républicain laïque, et bien entendu la loi musulmane. Évidemment, c'est l'historien qui dit ceci, qui dit que la parole doit être prise en premier lieu par l'historien. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, les dossiers relatifs à ces trois grands corpus de textes, Bible, Évangile et Coran, les dossiers sont très complexes. Beaucoup ont été détruits au cours de l'histoire, beaucoup ont été trafiqués, manipulés au cours de l'histoire, et au-delà de ces accidents de l'histoire au sujet des documents, il y a les problèmes liés à la façon d'interpréter les textes. Le mot interpréter est extrêmement important. Alors, je vais... mais comment faire pour... Je peux... Je ne sais pas si de loin, je ne peux pas faire autrement. Vous... oui, si vous pouvez voir un peu... Mais je vais vous lire le... Voilà. Ceci, ce diagramme, ça s'appelle un diagramme, présente l'espace historique de la Méditerranée, du monde méditerranéen, parce que c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue, encore une fois, pour les trois religions monothéistes, mais aussi par un autre monde de connaissances et de pensées qui va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire de la pensée dans le monde méditerranéen, c'est le monde grec, la philosophie et la science grecque, et le monde latin avec le droit romain et la culture romaine, héritière elle-même de la culture et de la pensée grecque. Voilà les grands courants de pensée qui ne vont pas cesser de circuler dans cet espace méditerranéen qui, géographiquement, inclut l'Iran, Donc nous allons jusqu'à la frontière culturelle entre le monde asiatique, hindou et bouddhique, bouddhiste, et puis le monde du monothéisme et de la pensée gréco-latine dans le monde méditerranéen. L'Iran est incluse dans ce monde-là. Et déjà avant l'islam, l'Iran est le lieu où a émergé une autre religion qui a considérablement influencé le christianisme. C'est le manichéisme. Manichéisme. Un prophète qui s'appelle Mani, d'où le manichéisme. Et la lutte des cathares à Toulouse, en France, au Moyen-Âge, est liée au courant de pensée manichéen. Donc, j'intitule cela « Quête de sens et volonté de puissance dans l'espace méditerranéen ». Quête de sens, le sens de l'existence humaine, le sens de la morale, le sens de la politique, le sens des institutions, les symboliques qui fondent les valeurs sur lesquelles repose la production de l'existence humaine, la guidance de chaque sujet humain. Eh bien, ça va venir du monothéisme. Il y avait, avant le monothéisme, il y avait aussi des religions, mais ça nous entraîne très loin. Et ces religions antérieures au judaïsme et au christianisme, et bien sûr à l'islam a fortiori parce qu'il est le dernier, on va les appeler des religions païennes, on va les appeler polythéismes, à mesure que le monothéisme va s'imposer dans le monde méditerranéen, et il va s'imposer par la prédication, bien sûr, mais aussi par le bras séculier. Le christianisme s'impose et se répand avec la conversion de l'empereur Constantin au IIIe siècle. Et l'Empire byzantin devient le centre, justement, de l'expansion du christianisme. Et ensuite interviendront les différents États et puissances européennes. De la même façon, pour l'islam, dès la mort du prophète, la parole proprement religieuse cesse. Ce qu'il a dit va être inscrit, mis par écrit, dans ce qu'on appelle le Coran, mais désormais, ce qui est écrit dans le Coran, ce sont ce sont les hommes qui vont s'en occuper. Et donc, la quête de sens va toujours trouver en face d'elle la volonté de puissance politique, la volonté impériale, parce que chacune des trois religions monothéistes va revendiquer le monopole de la réception de la parole de Dieu. Vous avez la théorie du peuple élu pour les juifs. Et vous avez la théorie pour le christianisme, extra ecclesia nulla salus. C'est la formule latine de l'Église pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution française, et les révolutions européennes, et les révolutions laïques. Ça veut dire hors de l'Église, point de salut pour l'âme. Ce qui veut dire que l'Église a le monopole de la vérité est le monopole de la réception et de la gestion de la parole de Dieu. Et le Coran arrive 6 siècles après, et qu'est-ce qu'il dit ? Je suis la dernière version du monothéisme. C'est écrit comme ça. C'est la dernière intervention de la parole de Dieu dans l'histoire des hommes. Et puisque c'est la dernière, on consulte toujours la dernière édition et pas la première et la deuxième ou la quatrième, etc. Donc vous voyez avec des formules différentes comment les trois religions vont se disputer le monopole de l'élection. L'élection divine qui confie à un peuple sa parole et qui rend ce peuple-là responsable du destin de la parole dans l'histoire. Alors, je n'ai pas le temps de parcourir toutes les flèches qui descendent et qui vont dans les deux côtés. Je vous donne simplement ce schéma pour vous dire que c'est le premier pas d'introduction non seulement au Coran, mais à travers le Coran, qui renvoie lui-même aux évangiles et à la Bible. Ça nous introduit à l'histoire du monothéisme dans l'espace méditerranéen. Deuxième pas d'introduction. Je viens de vous dire que la parole revient d'abord à l'historien. Mais depuis les années 60, et particulièrement en France, l'histoire, ça n'est pas seulement le récit des événements, des biographies, de ce qui s'est passé ici ou là, politiquement, et des idées qui sont apparues et de l'évolution de ces idées. Cela ne suffit pas à nous donner les moyens de connaître en profondeur la manière de lire et d'interpréter les grands textes religieux. Il y a une autre discipline qui s'appelle l'anthropologie qui doit intervenir parce qu'elle a ses mots à dire, beaucoup à dire. Et l'historien ne peut pas travailler désormais sans la compagnie et la collaboration de l'anthropologie, les anthropologues. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie ? C'est la science qui étudie tout ce qui est culturellement et intellectuellement et spirituellement commun à toutes les cultures du monde. Anthropos en grec, ça veut dire l'homme. Et logos, ça veut dire la connaissance. La connaissance raisonnée de l'homme. De l'homme comme condition humaine. Alors ça, vous voyez, c'est très très important. C'est parce que nous ne faisons pas assez d'anthropologie que nous disons beaucoup de bêtises au sujet de l'ancien tiers-monde mis à l'écart de l'Occident et aujourd'hui au sujet des pays que nous avons appelés et que nous continuons d'appeler sous-développés par rapport aux pays développés. C'est la même chose que la distinction entre les indigènes d'un pays et les citoyens à part entière d'un pays, ce qui était le cas dans les colonies avant leur indépendance. Vous voyez ? Et aujourd'hui, en France, toujours, nous avons entendu, mais ça fait longtemps qu'on l'entend, mais on l'a entendu d'une manière particulièrement bruyante, au sujet des banlieues, qui habite dans ces banlieues, qu'est-ce qui se passe dans ces banlieues, eh bien, c'est exactement le problème dont traite l'anthropologie. Quel est le type de culture ? Quel est le type de connaissance ? Quel est le type d'information auquel les ouvriers du XIXe siècle, les ouvriers pris en charge par le mouvement communiste jusqu'en 1989, les paysans illettrés, même en Europe, la culture paysanne, qu'on appelle la culture populaire, ou aujourd'hui la culture des bidonvilles, des périphéries urbaines, des villes devenues absolument titanesques, 16 millions d'habitants au Caire. C'est un monde, une ville, 16 millions d'habitants. Imaginez ce qui se passe. Mexico, la même chose. Donc le phénomène de la sociologie urbaine et de la géographie urbaine. L'anthropologie va entrer chez tous les niveaux de culture et tous les niveaux sociaux pour s'intéresser à chaque groupe social, chaque groupe ethno-linguistique qui parle une langue. Par exemple, nous avons en France au moins 1 million de berbérophones qui viennent du Maroc et de l'Algérie. Mais on n'en parle pas. Jamais. On entend tous, ce sont tous des musulmans. Et éventuellement, ce sont tous des arabes. Alors qu'il y a une tension au Maroc et en Algérie. Vous le savez, en France, on le sait, ça. Mais vous voyez, bien qu'on le sache, c'est éliminé. C'est le sens exactement de ce diagramme, qui s'appelle la dialectique des puissances et des résidus. Je viens de vous parler du tiers-monde, qui est devenu le nord et le sud. Maintenant, on parle du nord et du sud, c'est tout. Deux points cardinaux. Le nord, c'est nous, c'est l'Europe, la puissance, la richesse, etc. Et le sud. Et dans chaque pays, vous avez un nord et un sud. Et qui reproduit à peu près ce décalage, en particulier décalage social et économique et culturel. Alors, le monde après 1989, je viens de vous le dire, il y a le monde qui conduit l'histoire, et puis le reste du monde. Le reste du monde. Tous ceux qui n'ont aucune possibilité d'accéder à la décision politique sur les forces qui agissent dans la mondialisation, dans ce que nous appelons la mondialisation de notre existence. Alors, il y a les puissances qui sont sur la première ligne et les résidus qui essayent de résister et qui sont sur la deuxième ligne. Et la dialectique, elle est aussi bien horizontale, regardez les flèches horizontales qui sont orientées des deux côtés. Première force. Alors, chaque société est un champ de force. Et il y a 8 forces qui ont une portée anthropologique dans chaque société. C'est-à-dire que ce ne sont pas des forces particulières à une société et qui ne se trouvent pas ailleurs. C'est 8 forces, il y a 8 forces ici. Oui, oui, oui. Alors les quatre premières. Formation étatique, l'émergence de l'État. L'État n'a pas toujours existé. Il a une longue histoire. On commence par des sociétés tribales, fragmentaires. Et il y a l'État qui émerge, et il y a l'histoire de chaque État. C'est pour cela que je dis formation étatique. Deuxième puissance, l'écriture, en tant qu'elle s'oppose à l'oralité. Les cultures orales, le berbère que je viens de citer, est une langue exclusivement orale. Elle existe depuis au moins plus de 2 millénaires, au Maghreb, On a essayé de l'écrire, mais comme l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, dans la Méditerranée, doit conquérir sa place au milieu d'empires puissants. Les Romains sont venus en Afrique du Nord et ont occupé toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Après les Romains viennent justement l'islam et les Arabes avec une écriture et avec un Coran, comme le christianisme avec l'évangile et la langue latine de civilisation. Ensuite vient la France avec la langue française et la pensée française moderne à partir de 1830. Eh bien, le berbère s'est toujours trouvé justement en face de ces langues puissantes, de ces états puissants, de ces civilisations évoluées par rapport à ce que représente l'état des sociétés encore tribales qui parlent et qui ont continué malgré tout jusqu'à nos jours, même en France, à parler encore ce berbère. Troisième force, culture savante. Quand vous avez l'écriture, vous développez une culture savante. C'est-à-dire l'école, l'enseignement et la communication de la connaissance se fait par l'écriture et progressivement on marginalise les cultures orales. Et les cultures orales disparaissent progressivement. Quatrième force, orthodoxie. L'orthodoxie, c'est ce que je viens de vous dire, chaque religion est contrôlée par des théologiens, par des juristes, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'hérésie en bas. L'hérésie, l'hétérodoxie. Et au-dessous des cultures savantes, il y a les cultures populaires, avec des langues sans écriture. Claude Lévi-Strauss a enseigné au Collège de France un cours admirable sur les sociétés sans écriture. Vous voyez l'anthropologie. Elle s'occupe de ce qui a été marginalisé au cours de l'histoire. Vous allez voir l'importance de ça quand on va reparler, car je n'ai pas oublié mon sujet, le Coran, la Bible, etc. Tout ça, c'est une introduction. Ne croyez pas que vous devez croire que je suis hors sujet. Quand est-ce qu'il va nous parler du Coran ? J'en ai dit quelques mots quand même. Mais là, je suis en train de vous montrer les conditions absolument nécessaires pour sortir du bavardage, des préjugés, des interprétations fausses et des cloisonnements doctrinaux. Voilà ce que j'essaye de faire. Il faut du temps, bien sûr. Ça, je passe 2 ou 3 semaines avec mes étudiants avec ça. Là, bon, c'est une conférence, mais j'espère simplement vous donner une idée. Je ne vais pas tout dire, bien sûr. Je vais très vite. Et fatalement, vous ne pouvez pas tout saisir l'importance de tous ces cheminements qui est indiqué par les flèches en rouge et qui sont orientées des deux côtés pour montrer la tension dans la société. Tension entre ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Tension entre ceux qui vivent de la culture savante et ceux qui vivent de la culture orale. C'est le cas des banlieues, encore aujourd'hui. Donc, je termine, écriture, oralité, et puis en face de, plutôt au-dessous de formation étatique, il y a ce qu'on appelle les sociétés segmentaires. C'est une appellation d'anthropologue parce que ce sont des sociétés qui vivent sous la forme de segments sociaux, d'unités sociales, le clan, la tribu, la famille patriarcale. Ce sont de grandes unités sociales, mais il n'y a pas un État centralisateur et fédérateur. Bien, maintenant, on va entrer dans, pas dans le sujet, mais dans la façon de lire les Écritures. Oh.
pardon.
Ce que j'appelle le fait coranique, ou bien aussi le fait évangélique, ou bien aussi le fait biblique. Quand on dit le fait, c'est pour mettre à distance critique un sujet embrouillé, un sujet où tout le monde erre et ne trouve pas les chemins nécessaires pour entrer dans l'univers de sens et de connaissance qui nous échappe complètement parce que justement on n'a pas montré tous les éléments qui composent la complexité. Quand je dis le Coran ou bien les évangiles, je dis ceci. Tout à fait en haut, il y a la parole de Dieu. Ce que justement le Coran, la Bible, etc., vont tous les trois appeler la parole de Dieu. Dieu parle. Et cette parole a un statut particulier. On ne peut pas réduire la parole de Dieu à la parole des hommes. Trop long à expliquer. Et trop difficile. En soi, c'est un immense chapitre. Voyez ? Parce que quand on dit la parole de Dieu, on passe et puis c'est tout. Mais il y a des études qui ont été faites, et qui, des explications, des théories qui ont été construites à la fois par ce qu'on appelle les théologiens. Qu'est-ce que c'est que la théologie ? Pour la différencier de la philosophie. Vous voyez combien c'est complexe. Et bien sûr, les musulmans sont très très loin de tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela que quand un musulman se présente à nous, il se présente à nous comme quelqu'un qui a un certain nombre de références. Et ces références, il va vous dire, c'est le Coran qui le dit. Par exemple, on va vous dire, le Coran dit aux femmes, il faut porter le voile. Point. Et les femmes portent le voile. Mais c'est d'une complexité que vous ne pouvez pas imaginer. Et de la même façon, les militants activistes politiques qui vous disent je pars pour la guerre sainte parce que le Coran me le dit, c'est d'une complexité inouïe. Et cette complexité, elle est là. Mais, encore une fois, où sont les écoles? Où sont les lycées? Et même, où sont les universités? Où l'on aborde la question du Coran comme je le fais devant vous. Je suis ambitieux, hein? Ah oui. Parce que j'aurais très bien pu vous expliquer superficiellement le Coran c'est ceci, il dit ceci, il ne dit pas cela, etc. Et c'est terminé. Mais là, vous seriez parti comme vous êtes venu. Pas avancé du tout. Tandis que là, j'espère que vous allez repartir avec des questions dans votre tête. Et c'est là le but. Vous posez des questions. Et ces questions, comme vous le voyez, elles viennent de toutes les disciplines qui étudient l'homme et la société. C'est ce qu'on appelle les sciences de l'homme et de la société. La religion traite de l'homme et de la société. Et donc, les religions sont aussi complexes que nos sciences humaines aujourd'hui, qui justement veulent entrer dans cette complexité. Et c'est ici que je dois vous signaler qu'à l'issue de la commission de laïcité qui a abouti à la loi sur le voile, eh bien, la commission de laïcité, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, a recommandé beaucoup de choses dans le sens que je suis en train d'expliquer. Et en particulier, recommander d'urgence, nécessairement, l'enseignement du fait religieux dans les lycées et collèges, où il y a tant de musulmans maintenant, qui sont complètement perdus. Mais les autres aussi. Les chrétiens sont perdus par rapport aux références historiques. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de connaissance et de culture. Vous interrogez des Français qui sont nés dans une ambiance chrétienne. Vous dites, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Qu'est-ce que c'est que l'incarnation? Autant de concepts fondamentaux de la foi chrétienne. Et des concepts d'une extrême richesse. Richesse intellectuelle, richesse spirituelle, richesse linguistique, car la langue s'est enrichie pour travailler toutes ces notions et transmettre toutes ces notions. Eh bien, vous voyez, ignorance totale. Et on oppose grossièrement la religion d'un côté et la laïcité de l'autre. De la même façon, si j'avais le temps de tester les connaissances de chacun au sujet de ce que les Français appellent la laïcité, on découvrira des ignorances considérables. Donc je reviens à ceci. Parole de Dieu, encore une fois, ça demande plusieurs conférences, si ça vous intéresse. Demandez aux organisateurs de vous en donner. Ensuite, cette parole de Dieu a été énoncée par un être humain. Moïse est un être humain qui appartient au peuple juif. Jésus de Nazareth, il est né dans la ville de Nazareth, en Palestine. On parle de Nazareth, mais hélas dans des conditions tragiques. Jésus de Nazareth, c'est un juif de la synagogue, instruit dans la synagogue, et qui va énoncer un certain nombre de propositions à l'intérieur de la synagogue, que les rabbins qui contrôlent l'orthodoxie, rappelez-vous tout à l'heure, c'est-à-dire contrôler la façon de comprendre la tradition, vont lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous nous bouleversez notre foi, etc. Et Jésus de Nazareth a parlé en langue araméenne. Il n'a jamais parlé en grec. Voilà pourquoi il y a un conflit entre les juifs et les chrétiens, surtout quand on dit le judéo-christianisme. Parce que les juifs tiennent beaucoup à la Bible en hébreu, hébraïque. Les chrétiens, le Jésus a parlé en araméen, mais les évangiles ont été transcrits et transmis en langue grecque. Ce qui change complètement le socle culturel de la langue araméenne, qui est une langue sémitique, comme l'hébreu, comme l'arabe et comme une autre grande langue sémitique, le syriaque, dont l'araméen était le dialecte populaire. Et Jésus parlait le dialecte populaire pour que la foule comprenne ce qu'il veut dire. Voilà des choses qui nous instruisent. Je n'ai pas le temps de développer cette question de langue et de transmission de la parole de Dieu. Pour le Coran, la même chose. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai hésité à dire le prophète. Parce qu'il ne deviendra prophète qu'après coup. Après les succès de la nouvelle religion. De même que Jésus de Nazareth ne deviendra Jésus-Christ qu'après coup, quand on va construire la théologie des mystères chrétiens. Vous voyez, ça c'est des connaissances tout à fait essentielles, de base. Et donc ici, quand Mohammed ibn Abdallah, voilà son nom de tribu. Et comment ses contemporains le percevaient et le localisaient dans la carte sociologique des clans des familles patriarcales et des tribus en Arabie. C'est comme cela qu'on est situé socialement et politiquement. C'est Mohammed ibn Abdullah. Le titre de prophète, comme le titre de Jésus-Christ, ne va apparaître qu'après l'expansion du christianisme et de l'islam. Vous voyez combien le regard que nous portons sur ces textes sacrés va changer lorsque nous les appréhendons de la façon que je suis en train de faire devant vous. Alors, ce qui est important, c'est que l'énonciateur de la parole de Dieu va l'énoncer oralement. Nous sommes dans des sociétés et des cultures où l'écriture est une exception. C'est l'oralité qui est la règle générale. C'est pour cela, Jésus parle en araméen, il ne parle pas en syriaque. Et vous voyez tout à l'heure le second diagramme. À quoi sert l'opposition entre l'écriture et l'oralité? Nous y voilà. Or, lorsqu'on passe du discours oral au discours écrit, il y a une immense déperdition de sens. Regardez ici dans cette salle. Je parle devant vous. Il n'y a pas que mes mots qui vous transmettent du sens. Mes mains vous parlent. Mon visage vous parle. Le rythme et le ton de ma voix vous parlent. Vous voyez, vous parle. Vous voyez comment je l'ai prononcé. Je n'ai pas dit vous parle. Mais oui. C'est un enjeu formidable. Le passage de la parole vivante, partagée dans l'immédiateté des yeux qui se regardent. Je vous regarde tous. Je vois vos visages. Et je sais que vous êtes intéressés. Vous n'êtes pas ennuyés par ce que je vous dis. Eh oui. C'est très important. Et puis, après, je vais m'arrêter, bien sûr, et vous allez pouvoir parler. Je ne vais pas partir sans que vous parliez, sans que vous disiez comment vous avez reçu ou pas reçu tout ce que j'ai essayé de vous transmettre. Eh bien, mettez tout ça sur une disquette. Pas audio, pas vidéo, mais audio. Il restera ma voix et le ton de ma voix. Mais les mains, non. Mais le corps, non. Assis ou debout, non. Tout ça va disparaître. Seul vous pouvez restituer la situation de production du sens qui nous est particulière et singulière et irréductible à tout autre, parce que si on change l'auditoire, s'il y avait d'autres personnes, par exemple, supposez qu'il y ait ici une vingtaine de musulmans, et parmi eux, une dizaine d'activistes. Eh ben voilà. Vous voyez, la communication orale, ça c'est très important. Or, lorsque je dis le Coran, la Bible, les évangiles, tout ça, personne n'en parle. On se précipite sur le texte éventuellement, on lit le texte, et alors en lisant le texte, vous allez voir ce qui se passe. Troisième niveau, corpus officiel clos. Tout ça, ça s'applique au Coran, aux évangiles, à la Bible. De la même façon, ça c'est un enseignement anthropologique. Ça n'est pas un enseignement théologique. Car un enseignement théologique, vous aurez parlé exclusivement du Coran, Et s'il fait allusion aux évangiles et à la Bible, c'est pour ouvrir une polémique théologique dont on n'est pas encore sorti depuis 15 siècles. Parce que le Coran va vous dire, Jésus, c'est un prophète, ça n'est pas le Fils de Dieu. Il n'a pas été crucifié, etc., etc. Et nous voici entrés dans les soubassements et les pierres d'attente, si je puis dire, des croisades au Moyen-Âge, de la chrétienté contre l'islam, pour aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem, des barbares musulmans qui le profanaient. Voilà, vous voyez, c'est un raccourci là que je fais pour vous expliquer comment fonctionne la théologie et comment fonctionne l'histoire et l'anthropologie qui pacifie la théologie. Parce qu'on comprend des choses que la théologie ne nous explique pas. Elle omet d'en parler. Et quand elle en parle en termes dogmatiques et non pas en termes d'analyse, d'explication, suivi d'échange et de débat. Corpus officiel clos. Voilà trois concepts. Un corpus en linguistique, c'est un ensemble de textes qu'on met dans un même volume. Par exemple, corpus de la poésie française au XVIe siècle. Je prends des poèmes du XVIe siècle, et je les mets ensemble. Ça fait un corpus de la poésie française au XVIe siècle. Mais j'ai commis des injustices en faisant ce corpus, parce que j'ai fait une sélection. J'ai pris tel poème de Ronsard et pas tel autre. J'ai retenu du Bellay, mais pas retenu d'autres poètes que j'ai considérés comme secondaires. Donc un corpus pose des problèmes. Car il y a toujours une intervention humaine dans la constitution du corpus. C'est ainsi que les évangiles, il y en a quatre qui sont retenus par l'Église, mais il circulait de très nombreux évangiles dans les deux premiers siècles de l'Égypte. Et ces nombreux évangiles n'ont pas eu l'honneur d'accéder à la consécration officielle. Pour le Coran, c'est la même chose. Et vous voyez l'intérêt de la comparaison. Vous voyez que je ne cesse pas de passer d'un corpus à l'autre pour inclure les trois religions et qu'aucune d'elles ne continue à se prévaloir d'un privilège divin accordé par Dieu et que les autres n'ont pas reçu. C'est en ce sens que l'histoire, l'anthropologie, l'analyse linguistique du discours, ce sont des entreprises de pacification et aussi de formation de l'intelligence, de formation du raisonnement, d'acquisition de l'esprit critique. Or, notre chère République, malgré les recommandations de la Commission sur la laïcité, hésite toujours à introduire un enseignement du fait religieux. Vous voyez maintenant ce que veut dire le fait religieux, le fait coranique. Vous voyez que je ne vous ai pas endoctriné en vous disant le Coran c'est formidable, le Coran c'est ceci, le Coran c'est le livre de la vérité divine, etc., etc. Je vous donne des clés pour que vous-même vous entriez dans ce Coran et vous vous fassiez votre idée à vous, à condition de maîtriser. Eh oui, à condition de maîtriser tous les parcours que je suis en train de vous montrer. Tous ces parcours-là. Bon, et ces parcours, ça se fait à l'école. C'est le premier entraînement. Donc, corpus officiel, intervention de l'autorité religieuse officielle, mais aussi intervention des États politiques qui vont se servir de l'autorité sacralisante, qui a une force de sacralisation qui est attachée aux Écritures saintes. Le roi de France, jusqu'à la Révolution, était sacré à Reims par l'Église catholique dans une cérémonie somptueuse. Le pouvoir de sacralisation et de sanctification. Troisième concept, clos. Le corpus est clos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que l'Église a décidé que seuls 4 évangiles seront considérés comme authentiques, personne n'aura autorité à venir brandir un évangile et dire « Ah, j'en ai trouvé un, on va l'ajouter aux autres. » C'est arrivé dans l'histoire. En 48, les Bédouins ont découvert en Palestine les manuscrits de la Mer Morte. Mais comme la science historique a pris le pouvoir et l'indépendance vis-à-vis de l'Église, elle les a étudiés, elle les a analysés, mais ils ne sont toujours pas admis comme un corpus officiel sur lequel l'Église fait reposer son autorité. De la même façon, si je trouve demain un manuscrit du Coran qui daterait de 632, juste après la mort. Oh. Vous imaginez ? Évidemment, ça n'est pas dans l'ordre du possible, c'est de l'ordre du miracle, mais même le miracle, c'est pas possible. Il y a la situation irréversible, créée justement par la disparition des documents. Et enfin, ces corpus officiels clos, une fois qu'ils sont officialisés, qui va s'en occuper ? Eh bien, les communautés interprétantes. C'est 2, 4, 5e niveau, vers le bas. Les communautés interprétantes. C'est-à-dire les fidèles dans les synagogues, les mosquées et les églises. Alors ici, il y a une différence entre les trois religions, entre le catholicisme, qui a une structure verticale, c'est pour cela que j'ai une disposition verticale, la parole de Dieu est aux cieux, nous levons les yeux vers les cieux quand nous prions, Dieu est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, donc il y a une descente vers la terre, une descente de la parole vers la condition humaine. Et la communauté interprétante, dans le christianisme, n'aura la liberté de libre examen que lorsque Luther, au XVIe siècle, va introduire la fameuse réforme protestante. Voilà le sens de la réforme protestante dans le christianisme. À cet égard, l'islam n'a pas de structure verticale de l'autorité religieuse. Chaque musulman, comme dans le protestantisme, chaque musulman a le droit de libre examen, quitte à soumettre son interprétation à la discussion par tous les autres musulmans qui auraient une interprétation différente. Il y a donc conflit des interprétations. Mais ce conflit des interprétations avec la liberté pour chaque fidèle d'y participer en islam a été confisqué par l'État. Confisqué par l'État. Ça, c'est un autre chapitre, immense chapitre. Il est temps de m'arrêter. J'espère que, parce que j'ai beaucoup parlé, et il est temps maintenant que vous parliez, vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais j'espère que vous aurez retenu quelles sont les conditions auxquelles il faut satisfaire pour entrer dans l'étude, cette fois, je peux dire, du fait religieux et pas seulement du fait coranique. C'est ça la conclusion. Car ce que je vous ai dit, ça concerne le fait religieux. Les hindous, les bouddhistes, toutes les religions ont un corpus officiel clos, toutes. Et dans toutes les religions, nous retrouvons le rôle des communautés interprétantes. Jusqu'à l'avènement de la modernité, Dieu sera mis de côté, les écritures saintes seront mises de côté, et nous voilà partis pour la démocratie et la souveraineté populaire, et non plus du tout la souveraineté de Dieu qui nous informe au sujet de ce que doivent être nos croyances et nos conduites dans les sociétés. Et c'est un autre chapitre qui s'ouvre devant nous. Merci pour votre patience. Alors, j'attends vos questions.
Oui, bonjour. Je fais référence à ce que vous venez de dire par rapport à ce que vous disiez que l'État, dans les pays musulmans, enfin, il a interdit à chaque croyant d'interpréter le Coran selon sa propre interprétation, n'est-ce pas?
Pas interdit.
Limité.
Il est permis. Attention.
Oui, éclairez, s'il vous plaît.
Oui. J'ai dit que l'islam, c'est comme dans le protestantisme. Chaque musulman a le droit, théologiquement, de lire le Coran, de l'interpréter, mais il n'a pas le droit d'imposer aux autres musulmans son interprétation. Il doit soumettre son interprétation au débat de la communauté. C'est ce que j'appelle la communauté interprétante.
Et est-ce que, je voulais savoir justement, la première réaction que j'ai, c'est de dire, est-ce que la violence à laquelle on assiste, ça fait partie de cette interprétation du Coran ou pas?
Ah ben, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, ce sont d'autres forces que précisément on n'analyse pas et on n'explique pas.
Et justement, j'aimerais que quelqu'un me les explique et les analyse, parce qu'on assiste à des phénomènes qu'on ne comprend pas, on se demande pourquoi, qu'est-ce que pousse ces gens à faire ça, et est-ce qu'ils le disent tout le temps au nom du Coran, et qu'est-ce que ça dit ce Coran?
Oui, mais je vous ai dit que tout ce que je viens de vous expliquer n'est jamais enseigné ni dans les pays musulmans, ni dans les pays européens évolués, et qui dispose de bibliothèques magnifiques, d'universités formidables, d'une armée de chercheurs en sciences de l'homme et de la société, mais ces choses-là ne sont pas à l'ordre du jour. Éliminées de la culture du citoyen. Et oui, ce que je vous ai dit là ne se dit pas, ne s'enseigne pas. Vous pouvez aller n'importe où en France, n'importe où en Amérique, vous ne trouverez pas un exposé comme celui-ci. Il y aura des fragments, bien sûr. On vous dira l'histoire de la Bible, l'histoire de ça, d'accord. Mais la perspective que j'ai prise et la manière d'utiliser en même temps les enseignements de l'histoire critique et les enseignements de l'anthropologie religieuse et culturelle et les marier ensemble pour justement soulever des problèmes qui n'ont jamais été soulevés jusqu'à présent. Et il est tout à fait faux de dire que seulement les musulmans ne font pas ça, et de suggérer que les autres le font. Il est évident que la théologie dans le christianisme protestant et catholique, bien sûr, a bénéficié, parce qu'elle est en Europe, des sciences sociales et des évolutions de ces sciences-là, alors que dans les pays musulmans, avec leur état de sous-développement, les universités ont commencé à travailler dans les années 60. Alors que nos universités européennes sont vieilles de plusieurs siècles. Donc ça éclaire beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, les gens expriment leur mécontentement, expriment leur mal de vivre, mais ne leur demandez pas de donner des explications argumentées pour vous montrer que ça dérive du Coran ou ça ne dérive pas du Coran. Évidemment, ils ont la liberté de dire c'est le Coran, parce qu'on leur a dit que le Coran c'est la parole de Dieu, point. Et vous voyez que on ne peut pas dire les choses ainsi.
Mais justement, monsieur, est-ce que vous pourriez développer votre dernière phrase quand vous dites que la possibilité d'interpréter le Coran a été donnée à chaque musulman, mais que cette possibilité lui a été confisquée?
Oui.
Comment cela est-il arrivé? Parce que ça voudrait dire que ça rejoint votre thèse habituelle qui veut que le problème de l'islam aujourd'hui, c'est ce manque d'interprétation, et que l'islam ne sera sauvé, si j'ai bien compris, que le jour où on pourra enfin l'interpréter plus librement.
Oui, alors moi, je vois...
Mais cette confiscation, comment s'est-elle passée?
Oui. Alors, premièrement, vous voyez la question du vocabulaire. Je ne dis pas si l'islam va revivre ou va vivre encore longtemps, je ne dis pas cela. Et tout ce que je dis, justement, nous avertit que on ne peut pas prévoir ce qu'il adviendra des religions dans leur formulation traditionnelle et leur croyance traditionnelle. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, justement, dans la recherche scientifique et dans les confrontations entre les croyances religieuses et la façon de comprendre aujourd'hui ce que c'est que la croyance religieuse. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc ça reste ouvert. Quant à la confiscation par l'État, l'État, pour se faire obéir, de ceux qui sont sous son autorité politique, doit légitimer le pouvoir qu'il exerce, la légitimité politique. Il faut distinguer la légitimité politique de la légalité politique. Un pouvoir est légal une fois qu'il est en place, conformément aux dispositions juridiques du droit public et de la Constitution. Si la forme juridique est satisfaite, il y a pouvoir légal. Mais il n'y a pas nécessairement pouvoir légitime. Ça, c'est une distinction capitale que fait la théologie politique et la philosophie politique. Alors, dans les trois religions, justement, il y a beaucoup de discussions sur la légitimité politique. Et en islam, les questions de légitimité et de légalité sont fondamentales depuis le début. Il y a eu une grande bataille dès 661 au sujet de la légitimité du calife. Je n'ai pas le temps de m'embarquer là-dedans, c'est extrêmement important, mais très compliqué, ça demande du temps. Mais la question de la légitimité... elle existe aussi dans nos démocraties. Quand il y a une élection, comme celle que nous avons de plus en plus, et que ces élections sont soit manipulées directement par l'État, et donc n'ont qu'une valeur formelle et de façade, soit trop influencées par les manipulations électoralistes, c'est-à-dire on ne manipule pas les urnes, mais on manipule, par exemple, la carte des arrondissements, des découpages de la carte électorale. Voilà une manipulation. Quand ça devient trop visible, eh bien la légitimité en prend un coup. Parce qu'on le dénonce. On les dénonce parce qu'il y a atteinte à la légitimité. Donc vous voyez, la question de la légitimité du pouvoir politique fait que tous les États, avant les révolutions laïques, tous les États ont besoin de l'instance de la religion pour se légitimer. Dans les pays en Europe, en Europe chrétienne, comme dans le monde musulman, toute forme étatique a besoin de montrer que l'État protège la religion pour en tirer le bénéfice de sa légitimité. Alors, il s'est passé quelque chose de très important dans les années 50-60, lorsque les pays colonisés ont pris l'indépendance et on a vu émerger des États partout. Et ces États sont des États fondés avec le parti unique, comme dans l'Union soviétique. Alors, légitimité, zéro. Légalité, par la force. Alors, il y a une légalité qui fonctionne, mais c'est une légalité que les citoyens n'acceptent pas. Ils sont obligés d'obéir parce que c'est un pouvoir de force. Et le pouvoir se sert de la religion. Il surveille ce qu'on fait de la religion. Il peut censurer un livre de M. Harkoun s'il circule trop dans la société, surtout s'il est en arabe ou bien en indonésien ou bien en ourdou, c'est-à-dire dans une des langues qui est lue par la grande majorité de la société civile. Voilà les confiscations. Et voilà les enjeux des tensions que montre mon deuxième diagramme, mais je ne l'ai pas bien expliqué, enfin bien, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, sur la dialectique des puissances et des résidus. La religion devient puissante avec l'État, et l'État devient puissant et obéit avec la religion. Mais les citoyens n'y gagnent pas, ni dans un cas, ni dans l'autre.
Oui, j'avais juste une question qui, je crois, correspond à ce chapitre. C'est celle de le cas de l'Algérie, qui est une démocratie populaire, tout ce qu'il y a de laïque, et qui applique les lois familiales qui sont
d'origine religieuse. Oui, l'Algérie s'est appelée dès l'indépendance République algérienne démocratique et populaire. C'est exactement la dénomination des républiques de l'Europe de l'Est sous le contrôle de soviétique. Parce qu'il y avait une prise on a pris la direction justement du modèle des démocraties populaires. Mais en même temps, l'État a été obligé de contrebalancer cette option politique par la déclaration de son soutien pour l'islam. Et l'islam est une religion d'État en Algérie, et donc l'État se confond avec les intérêts de la religion. Et le contrôle de l'État s'exerce sur la religion comme ailleurs.
Et qu'est-ce que l'anthropologie, telle que vous la décrivez, la définissez, peut dire sur l'émergence du prophète Mohammed, du monothéisme qui prêchait dans le contexte polythéiste dans lequel il était?
Eh bien, elle vous dit, elle vous explique justement. Je n'ai pas l'habitude de me servir de... l'anthropologie vous explique justement les conditions d'émergence d'une parole subversive de l'ordre existant. Parce qu'il y avait un ordre religieux polythéiste existant à la Mecque. Il y avait des instances religieuses de sacralisation. Ce n'est pas parce qu'elles sont polythéistes qu'elles sont dépourvues de sacré ou éloignées du sacré. Seulement, justement, les religions se disputent sur la définition du sacré et les fonctions du sacré. Elles vont, le nouvel islam va disqualifier, discréditer le sacré du polythéisme et dire que ça ne vaut plus rien, il faut le remplacer par le sacré du monothéisme. D'où la tension politique et sociale. Et d'où les luttes contre et les poursuites contre Mohammed ibn Abdullah. Et c'est pour cela que je dis, c'est une parole subversive, au sens où la parole révolutionnaire, moderne, subvertit l'ordre établi. Et la parole religieuse, dans ses débuts, est subversive. La parole de Jésus de Nazareth est subversive. La parole de Moïse est subversive. C'est ce qui caractérise justement ce que j'appelle, en termes de linguistique, le discours prophétique en général. Mais évidemment, après viennent les systèmes théologiques qui pactisent avec le pouvoir étatique et la dynamique subversive de la parole. La parole, donc l'oralité, je reviens à l'oralité. L'écriture n'est subversive que si celui qui lit un texte est lui-même engagé dans une opération subversive. C'est le lecteur du texte qui rend le texte soit subversif, soit inodore et sans saveur. Le texte est réécrit, tandis que la parole, vous ne pouvez pas la réécrire. La parole, vous ne pouvez pas la changer, parce qu'il y a des témoins. Et tant que les témoins sont vivants, vous ne pouvez pas la changer. Vous voyez la force de la parole, le statut de la parole humaine. C'est pour cela que dans les droits coutumiers, on ne signait pas de papier quand on prêtait de l'argent. C'est la parole donnée. Surtout dans les cultures méditerranéennes anciennes que l'anthropologie étudie. Et moi j'ai grandi dans une société qui jusqu'aux années 50 fonctionnait encore sur la parole donnée. Le pacte oral signé entre deux personnes avec des témoins. Et on revient à la parole. On ne revient pas à un texte écrit. Voilà ce que dit l'anthropologie.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur la place du voile dans le Coran, justement ?
La place du ?
Enfin, le voile, le problème du voile.
Il fallait qu'on y arrive.
Alors là, vous m'engagez dans le travail inextricable, oui, de l'interprétation de deux ou trois versets coraniques qui touchent à cette question. Je dis qui touchent à cette question, qui ne la tranchent pas. C'est-à-dire qu'il y a ouverture, toutes les ouvertures pour l'interprétation de ces textes. Alors, pour interpréter ces textes, je me souviens, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, dans les années 90, quand la première question du voile a été soulevée pour la première fois, il m'a reçu dans son bureau, il a fait ce que vous venez de faire. Il avait un exemplaire de Coran sur son bureau, il l'a ouvert, il m'a dit, montrez-moi où sont ces versets. Je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous le redis à vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'asseoir et travailler ensemble et aboutir, si on aboutit, à un consensus sur la question. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de l'islam. L'islam n'a pas de magistère doctrinal vertical. Ça n'existe pas. C'est un magistère partagé. Mais, je le répète, confisqué par l'État, dans les conditions que je vous ai dites. Voilà quelque chose qu'on ne dit presque jamais. Et tous les livres qui s'écrivent sur l'islam ne vous diront pas ça. Ils vous diront que l'islam confond totalement le politique et le religieux, ce qui est faux. Il est faux théologiquement. Il est vrai dans la pratique politique des États. Voilà. Il est vrai dans la pratique politique des États. Et ce que fait le ministre de l'Intérieur en France, dans sa gestion des cultes en général et du culte musulman en particulier, eh bien, c'est contre le principe de liberté d'examen conféré à tout musulman. Il s'interpose et il donne une visibilité à une poignée de musulmans qui prennent un pouvoir politique, bénéficient du soutien du pouvoir officiel pour s'ériger en docteurs qui peuvent dire leur interprétation officielle de tel ou tel verset coranique, ce que l'islam n'accepte absolument pas. Voilà, c'est un exemple.
Monsieur Arcourou, on vous fera revenir et maintenant vous commencez le chemin. Parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Merci encore et merci à tous.
Alors, qu'est-ce que vous faites là, ma chère? Vous travaillez ici?
Non, il n'a pas pu venir. Et donc, je suis venue qui? À sa place, Rachid.
Ah, bien, oui, très bien. Ah oui, c'est Rachid. Oui. Il eût été dommage que vous repartiez.